Bonjour, bienvenue sur le Tabarnak Show, on est le premier vendredi du mois. Pour cette deuxième édition, nous sommes en France, en direct de Montpellier. Le Tabarnak Show, c'est avant Noël, c'est des cadeaux. Le Tabarnak Show, c'est des news et de la zik. Pour les news, on vous emmène au Japon avec Ingrid Nichot, puis en Angleterre avec un reportage saisissant de Natasha Dawson. Wouhou ! Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Luc.
Comment ça va?
Toujours en forme pour le Tabarnak Show.
Aujourd'hui à Montpellier, c'est salle comble. Bonsoir public, bonsoir à tous. Ça doit être l'effet, mon oncle Serge.
En effet Luc, on a dû refuser du monde. Mais nos amis techniciens, merci à Jeff en tout cas en particulier, on a pu installer un écran géant à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'il fait un petit peu froid, j'espère que les gens, n'ont pas trop froid. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont avoir.
Comme d'habitude, Vanessa, le temps passe trop vite.
C'est vrai, Luc.
Je vous demande d'accueillir sous une ovation d'applaudissements et de cris l'énorme, le sensationnel, le provocateur. Et comme a dit mon ami le Premier ministre canadien Stephen Harper, un homme libre dans un Québec libre, l'énormissime, mon oncle, ça.
Salut le... Yeah! Waouh! C'est malade, un soir à Montpellier! Yeah!
Bonjour mon oncle! T'es le bienvenu, t'es dans le Tabarnak Show. Tu sais que c'est ton émission, t'es ici chez toi, et on t'aime très fort.
Ouais! Moi aussi je t'aime, Luc Marbiac! Ouais! Hey la foule! On fait du bruit pour Luc Marbiac!
Mon oncle, tu viens trop rarement nous rendre visite ici, en France, à Montpellier en tout cas. Mais ce soir, nous allons en profiter, car t'es venu avec tes musiciens.
Ouais, je suis venu avec les métalleux d'Anonymous. Anonymous, ça c'est un des meilleurs groupes métal qu'on a au Québec. J'ai eu la chance de faire un album avec eux il y a 5 ans, et je viens d'en sortir un deuxième qui est encore meilleur, qui est encore plus agressif. Et plus violent que le premier.
Mais il est toujours comme ça.
La sortie de ton album est quelque chose qu'on salue. Et en tout cas, moi je suis persuadé que tu vas marquer l'histoire du rock francophone. En Suisse, en France et au Québec.
Ouais, puis la Belgique là-dedans, hein? C'est ça les Français, maudits Français racistes. Vous aimez pas les Belges. Puis à chaque fois que vous parlez de la francophonie, jamais vous parlez des Belges. Moi j'ai plusieurs amis belges là. Puis ils souffrent, messieurs dames, ils souffrent de du sort ingrat que les Français leur font subir en les ignorant systématiquement. Et vous oubliez, monsieur Marvioc, que toute la francophonie en Afrique, hein? En Afrique, oh, je sais, pour vous les Français, là, pour vous les maudits Français, en Afrique, c'est juste des Noirs, c'est juste des gens de d'autres races, hein? C'est pour ça que vous votez pour le Front National en français, hein, maudite merde. Moi, quand je suis venu en France, là, je m'attendais à arriver ici, pis à pas avoir des maudits Français devant moi, t'sais. J'entends les discours du Front National. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent, le Front National? Il y a trop d'Arabes en France. Je me suis dit, en venant jouer en France, enfin, je vais pouvoir jouer devant des Arabes. J'arrive en France, qu'est-ce que je vois? Y'a que des maudits Français racistes! Oh mon Dieu! Mais c'est pas grave, Luc. Je t'aime pareil. Je t'aime quand même, pis je suis sûr que ton cœur est profondément bon, et un jour, tu trouveras la lumière de la raison.
Mon oncle, la scène du Tabarnak Show est à toi. On t'aime, on te salue et surtout, on t'acclame et on t'écoute.
Oh mon beau Luc d'amour, j'ai des décidé de te chanter une chanson qui s'appelle « Je suis poche sans le punk ». Le punk, oh, en France, vous dites « des punks ». Mais nous autres, au Québec, on est des fucking malades dans la tête, fait qu'on dit « des punks ». Yeah, on écoute ça. OK, les gars, vous êtes prêts? Moi, j'aime pas ça, les punks!
Merci, mon oncle. Hey, c'est pas parce que t'aimes pas les punks que tu dois en dégoûter tout le monde.
Quelle énergie!
Mon oncle, reste là car on te retrouve après le premier reportage, car le Tabarnak Show, c'est de la zik, mais c'est aussi des news.
En effet, Luc, je voulais juste te dire que ce reportage n'était pas prévu au départ. En fait, tout a commencé avec un message que nous avons reçu sur le répondeur du Tabarnak Show.
Un message d'un androïde qui nous a appelés depuis le Japon et qui, je dois le dire, nous a bouleversés.
Le mieux peut-être, Luc, c'est de le faire entendre à notre public et à nos auditeurs.
Et je vous jure qu'on n'a rien copié à mon ami Daniel Mermet, que je salue.
Bonjour. Au secours. Aidez-moi. Je suis un modèle numéro 64-6746, Whitmark, matricule C. Je me suis enfui pour échapper à une réinitialisation que veut me faire mon propriétaire. Je suis au Japon. Je suis caché quelque part. J'appelle de cet endroit. Je n'ai bientôt plus de batterie. J'ai un message à donner au monde. J'ai besoin que vous m'aidiez à le... diffuser.
Les écrans géants du Tabarnak Show s'abaissent pour visualiser le reportage. Et chez vous, chers abonnés, sur vos ordinateurs.
Sayonara. On ne sait pas où est cet androïde, mais on va mener notre enquête. Grâce à son numéro de licence, nous avons retrouvé la société Koshimanara. Nous avons interrogé l'ingénieur créateur de l'androïde. L'enquête commence. C'est très, très excitant.
Monsieur Takyomo, directeur de la société Koshimanara.
Savez-vous ce que représente ce numéro de licence ?
Ah, oui, c'est bizarre, en effet. Je ne comprends pas, c'est étrange. Attendez, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est bien un modèle de 2006, vendu par notre société. Ah, attendez, nous l'avons bien eu en retour SAV. Mais on n'a pas pu le réparer car le robot a été ouvert. Et donc la garantie ne marche pas. Vous voulez un sushi ?
Non, merci. À tout hasard, savez-vous où se trouve ce robot maintenant ?
Sûrement chez son propriétaire. Vous ne voulez vraiment pas de sushi ? Ils sont très bons, chère mademoiselle.
Manifestement, cet homme nous cache quelque chose.
Ingrid Michaud et l'équipe du Tabarnak Show se sont rendus chez le propriétaire.
L'homme est en souffrance. Après quelques sushis et plusieurs verres de saké, il a réussi à nous parler de son histoire.
Ce gars...
Je l'ai acheté il y a 2 ans, ma femme robot. Vous avez une jolie jupe, mademoiselle.
Merci, je sais. Mais revenons à notre histoire.
C'était super au début, j'avais jamais vécu une histoire pareille. Il y avait une belle fusion, un super alliage, elle avait une plastique parfaite. Enfin, moins joli goût.
D'accord, mais poursuivons.
C'était super, mais vivre avec un robot, c'était limité quand même. Disons que sur le futon, elle manquait un peu d'initiative. Mauvaise mécanique des fluides, vous voyez.
Pourquoi avez-vous ramené au SAV votre femme il y a 3 mois ?
En effet, elle avait changé. Je ne la reconnaissais plus. Elle avait un comportement bizarre. Elle passait son temps sur Internet.
Avouez que c'est vous qui l'avez ouverte. Qu'est-ce que vous cherchiez à faire, honnêtement, monsieur Takato ?
Non, je ne l'ai pas ouverte. Elle est juste tombée de l'escalier et elle s'est ouverte toute seule. Au contraire, c'est moi qui l'ai refermée, tout de suite.
Visiblement, Monsieur Takako nous cache quelque chose. Alors que nous cherchons des traces de chute dans les seuls escaliers de l'immeuble, une voisine nous interpelle.
Que faites-vous ? Qui êtes-vous ?
Nous sommes l'équipe du Tabarnak Show.
Oh, Tabarnak Show, Marvioc.
Pouvez-vous nous renseigner sur la femme de Monsieur Takako ?
Sa femme ? Ce tas de ferrailles ? Elles ne sont même pas programmées pour dire bonjour sur le palier. Elles viennent nous piquer nos maris. En plus, elles ne sont pas feng shui. Pour preuve, elle a entamé une procédure de divorce.
Une procédure de divorce ? Vous voulez dire rompre son contrat commercial qu'il a lié avec Monsieur Takako.
Oui, c'est ça. Divorcer, quoi.
Merci pour ces informations. Au revoir.
Tenez, prenez des sushis.
Indubitablement, cette femme manque de vocabulaire. C'est dans les bureaux de la Chambre de commerce de Tokyo que l'enquête se poursuit. Nous avons retrouvé la trace du juge en charge du dossier.
Yakuza.
Ce n'est pas possible qu'un androïde s'humanise. Je vous renvoie aux lois d'Asimov. Et quand bien même, les textes de loi s'appliquent aux humains et pas aux robots. En revanche, d'après la loi, ce robot appartient bien à Monsieur Takako. Il l'a acheté légalement et dans les règles. Il en a le plein usus fructus. Je sais que les journalistes sont friands de science-fiction, mais ici, nous ne faisons qu'appliquer les lois.
Comment cette plainte est-elle arrivée jusqu'à vous ?
Par email.
L'enquête piétine. Curieusement, l'ascenseur dans lequel nous nous trouvons nous amène directement vers le parking du sous-sol. Là, une jeune avocate nous interpelle.
Montez ! C'est moi qui défends l'Android numéro 64-6747 Vic Marc Matricule C. Enfin, pour moi, c'est Grishka. Je trouve que les robots sont plus intelligents que les dauphins. Alors que les dauphins sont déjà très très intelligents. Grishka est le premier robot à avoir envie de s'émanciper. C'est extraordinaire.
Avez-vous des nouvelles de Grishka?
Non, pas depuis deux semaines.
Nous avons quelque chose à vous faire écouter. C'est une exclusivité Tabernacle Show.
Je me suis enfuie pour échapper à une réinitialisation que veut me faire mon propriétaire. Je suis au Japon. Je suis cachée quelque part.
Mais mettez plus fort.
Je n'ai bientôt plus de batterie. J'ai un message à donner.
Vous entendez derrière, ce sont les dauphins de quoi plouf. Ce sont des dauphins, je les reconnais. Je les reconnais, ce sont les dauphins de quoi plouf. Allez là-bas, je vous emmène. Elle aime beaucoup les dauphins.
En route pour l'aquaplouf de Tokyo.
Après une course effrénée dans les rues de Tokyo, nos amis arrivent enfin à l'aquaplouf.
Grishka ! Grishka ! Nous suivons l'avocate de Grishka. Elle nous mène tout droit au bassin des dauphins.
Je l'ai trouvé ! J'ai trouvé quelqu'un, elle est dans la cabine téléphonique. Apportez la voiture, elle a plus de batterie. On va la brancher sur...
Grishka est enfin retrouvée dans la cabine téléphonique où elle a probablement appelé le Tabarnak Show. Après quelques tours de moteur, Grishka reprend des couleurs. Ses yeux s'ouvrent. Grishka, je suis Ingrid Michaud pour le Tabarnak Show.
Bonjour, vous voilà enfin. J'ai réussi à décrypter le langage des dauphins. Ils ont un message à diffuser. Le voici. Les dauphins parlent aux humains. Frères humains, qui avec nous vivez, n'ayez contre nous vos cœurs endurcis. Les tons rouges sont nos frères, et par transitivité, ils sont également vos frères. Ainsi, il vous est demandé d'être un peu gentil avec eux, et vous autres, hommes de pêche du port de Sète en France. Nous savons que vous ne respectez pas vos quotas, et que les tons rouges de Méditerranée vont disparaître à jamais à cause de vous.
Waouh ! Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?
Je vais faire le tour du monde pour être l'ambassadrice des thons rouges et des dauphins et rencontrer les frères pêcheurs.
C'est formidable. Est-ce possible de demander aux dauphins de nous dédicacer un jingle pour le Tabarnak Show ?
Oui, bien sûr.
Et ça veut dire quoi ?
Nous, les dauphins, on est dingues du Tabarnak Show. Je suis un dauphin et j'approuve ce message.
Après le premier pas sur la Lune, un petit pas pour l'homme, un grand plouf pour le Tabarnak Show. C'était Ingrid Michaud à Tokyo pour le Tabarnak Show.
Serge, et vous au Canada, Vous chassez toujours les bébés phoques?
Ouais! Fuck les bébés phoques! Fuck les mamans phoques! Fuck les papas phoques! Fuck les phoques! Et vive Marmiot! Ouais!
Serge, entre nous, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Hein? J'espère qu'avec vos propos, on n'aura pas de procès avec, je ne sais, peut-être... Comment elle s'appelle?
Brigitte Bardot.
Brigitte, on t'aime.
Mon oncle, sérieusement, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la planète?
Le meilleur moyen de sauver la planète, c'est de faire de la résistance festive. Alors, quand vous organisez une fête chez vous, que vous prenez de la drogue, de la boisson, que vous faites des partous avec vos amis et des choses comme ça, là, il faut pas le faire à la légère. Il faut toujours le faire au nom d'une bonne cause. Par exemple, ici, je prends une bière. Je prends ma bière ici. Regardez tout le monde! Vous voyez ma bière? Je vais prendre une gorgée contre la soif dans le monde! Adieu! Ah. Ouais! Voilà, ça, c'est ce qui s'appelle faire sa part pour un monde meilleur. Alors, j'ai résumé ma philosophie dans une chanson qui s'appelle Résistance Festive et que je vais vous jouer dans quelques secondes avec les métalleux d'Anonymous.
Ouh là là, Marvioc, passez-moi vos boules quies, s'il vous plaît.
Ok, Montpellier! Ok, tout le monde sur Internet! Ok, les extraterrestres qui nous écoutent avec la radio! Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, Anonymous? Ok, 1, 2, 3, 4!
Hey, toi et la cravate! Watch out, on sort la 24!
Vanessa, pour le deuxième reportage du Tabarnak Show, on traverse la Manche. Un reportage de Natasha Dawson.
Octobre 2008. Il est 6h du matin en Angleterre, dans la forêt de Faldarkmoos, à Wismouth. L'aube se lève à peine, alors que les fonctionnaires français dorment encore, les chevaux, eux, sont prêts. En effet, d'ici quelques instants, le son du cor va résonner dans les corps et dans les âmes pour annoncer le départ de cette journée de chasse bien particulière.
Depuis l'interdiction en 2004 de la vénerie en Angleterre et au Pays de Galles...
Jacqueline McNuggets, professeure de français à l'université de Canterbury, historienne et spécialiste très titrée.
Le traditionnel chasse au renard avec les beaux habits tout rouge, eh bien, ils ont dû s'adapter de façon radicale. Certains ont opté pour le drag hunting, là où les chiens suivent une piste laissée par un homme traînant un peu de beurre olfactif. D'autres, comme les chasseurs de Faldarkmoos, ont convaincu des coureurs professionnels de servir de gibier.
Revenons dans la forêt de Faldarkmoos. Il est 6h10. La chasse à l'homme va commencer.
Lord McRivers, organisateur, président de la CDFG LTD. Il y a 4 ans, lorsque j'ai compris que l'interdiction de la chasse aux renards était inéluctable, j'ai décidé d'organiser avec mon fils, Dick, une nouvelle sorte de chasse à courre afin de garder cette tradition vivante. Depuis, j'ai conduit une centaine de chasses à coureurs. Mon fils Dick a même été précurseur des coureurs leurs, des chasseurs.
Vous êtes anglais, mais tout de même, cela ne vous gêne pas de pourchasser des gens, votre propre fils?
Non,
aucun problème d'éthique. Les coureurs, comme les bêtes, aiment courir. Et croyez-moi, ils y prennent autant de plaisir que les chiens. Et en plus, ils sont bien payés pour cela. Au départ, on avait pensé engager des coureurs d'origine de couleur, car ils sont plus endurants. Vous imaginez bien que... on aurait eu très vite des problèmes de... En fait, on aurait été accusé de...
Cela n'est-il pas dangereux?
Dans mes courses, il n'y a jamais eu aucun accident.
L'homme gibier de notre chasse à cour du jour est français. Jean-Yves Xakis, 34 ans, fonctionnaire des PTT. Jean-Yves, la course commence dans 2 minutes. À quoi pensez-vous?
Écoutez, je me concentre. faut bien respirer, visualiser le parcours.
Jean-Yves, vous êtes français, vous avez une bonne situation, la sécurité de l'emploi, les 35 heures, vos 10 semaines de congés payés, les timbres gratuits, sans compter vos journées de grève intégralement rémunérées. Qu'est-ce qui vous a amené à exercer le métier de foxman, d'homme gibier ?
Eh bien, j'ai été repéré cet été par des touristes anglais alors que je participais à la finale du taureau piscine. Je gagne tous les taureaux piscine de Dax depuis que j'ai 12 ans. J'étais prédestiné, je pense.
Mais c'est dangereux.
Eh bien, il faut savoir que face aux chiens, en cas de problème, il suffit de se mettre comme ça. Et quand on est comme ça, les chiens ils se mettent tout de suite à l'arrêt. Il n'y a plus de risque, faut le savoir, c'est tout.
Ah.
Et puis c'est très excitant. C'est comme au taureau piscine, avec les taureaux. Et quand on entend les chiens dans son dos, on a une sacrée montée d'adrénaline. Et là, on court encore plus vite. Bon, vous m'excuserez, mais là, le devoir m'appelle. I have to go.
Ce dont Jean-Yves ne parle pas, c'est du salaire mirobolant de ses excursions anglaises. Une moyenne de 500 livres par heure de course. Également une prime de 2500 livres pour une arrivée avec plus de 2 minutes d'avance sur les chiens. Une motivation non négligeable.
Sur un subtil signe de tête de Lord MacRivers, le coureur s'élance avec allure et entame sa course effrénée. Il suivra un parcours prédéfini par les maîtres de chasse. 5 minutes plus tard, gémissant et aboyant d'impatience, une cinquantaine de limiers s'élancent à leur tour sur la trace olfactive de l'homme en fuite. Et enfin, les cavaliers lâchent la bride de leurs fiers chevaux et se jettent à leur tour dans la poursuite à travers bois.
L'hélicoptère du tabarnak chaud m'attend. Bonne chasse, messieurs!
La course bat son plein. Steven, expliquez-nous la chasse à l'homme.
Les chiens s'imprègnent de l'odeur du coureur. Pour cela, la veille de la chasse, les coureurs dorment dans le chenil. C'est pour cela que les chiens leur courent après.
Y a-t-il eu des accidents ?
Non, parce que quand le coureur croise un chien, il doit se mettre comme ça. Mais c'est petit cette cabine. Oups, oh, pardon. Mais si les coureurs ne se mettent pas dans cette position étonnante, ils peuvent se faire attaquer par les chiens. Dans tel cas, on doit les abattre, malheureusement.
Mais c'est monstrueux.
Oui, mais vous êtes en Angleterre.
Le chasse à courroux est à la base une invention française.
Jacqueline McNuggets, professeure de français à l'université de Canterbury, historienne et spécialiste très titrée.
Il est 11h45. Retour sur la course. Notre coureur possède 2 minutes 2 secondes d'avance sur les chiens. Jean-Yves, vous m'entendez ? Jean-Yves, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends, oui. Je suis où actuellement ?
Jean-Yves, il vous reste maintenant environ 1000 mètres à parcourir et vous disposez de plus de 2 minutes d'avance.
Oh.
Est-ce une bonne performance ?
Ouais, c'est pas mal. J'ai réussi à semer un groupe à l'empreinte dans la rivière.
Oh là là, mais vous n'avez pas eu froid ?
J'ai l'habitude d'aller dans l'eau avec les taureaux en piscine.
Ah oui, mais il fait froid tout de même.
Il fait pas chaud, hein. Mais quand on court, ça réchauffe.
Pensez-vous donc que le réchauffement climatique est épargné l'Angleterre ?
Je sais pas, hein. Je sais pas, putain.
Comme vous le dites si bien, Jean-Yves, nous n'avons toujours pas de preuves scientifiques d'un réel réchauffement climatique.
Je sais pas, putain, notre chatte.
On vous laisse tranquille pour faire un point un peu plus tard. Bon courage, Jean-Yves.
Oh putain, oh.
Je vous propose de regarder le témoignage de Franck Laborde, un autre Français pour qui l'aventure anglaise a tourné au drame. Franck Laborde, avant son terrible accident, était un comédien de Marne-la-Vallée. Ce jeune Français s'est proposé comme homme gibier de chasse à cours. Malheureusement pour lui, sa course s'est terminée dans le drame et dans le sang. Aujourd'hui, Frank est amputé de ses deux bras, ainsi que de ses deux jambes. Alors que les organisateurs nous répètent sans cesse qu'il n'y a pas de danger, comment en est-il arrivé là ? Frank a bien voulu répondre à nos questions.
Hôpital de Canterbury, service des soins intensifs.
Comment vous est venue l'idée de devenir homme-renard ?
J'ai joué le rôle d'Hatchoum dans un célèbre parc d'attractions de Marne-la-Vallée. Et on m'a proposé d'auditionner pour le rôle de Rox, le renard de la parade Rox et Rocky 4.
Mais qu'est-ce qui s'est passé pour ruiner vos rêves et votre carrière à ce point ?
Quand j'ai vu l'annonce d'homme-renard en Angleterre, j'ai tout de suite vu un signe.
Un signe ou un renard, Franck ?
Comment ?
Peu importe, Franck. Racontez-nous votre histoire, plutôt.
Non, pas plutôt, Rox, le renard. Il y avait cette annonce pour cette chasse en Angleterre. J'avais le costume à ma taille. Et ce boulot, c'était l'occasion d'être vraiment dans la peau d'un renard, du renard. Actor studio, quoi.
Mais ce jour-là, Franck, le jour de ce terrible accident, que s'est-il passé ?
Au début, tout se passait bien. J'étais presque arrivé. Je me sentais comme un renard, vous savez. Et c'est là que mon costume s'est pris dans les ronces et que les chiens m'ont attrapé, quoi.
Et alors ?
Je voulais activer ma balise de détresse pour signaler que j'avais un problème. Mais j'avais ces putains de moufles à trois doigts.
Oh, c'est affreux. Et après, Franck ? Je peux vous appeler Franck ?
Oui. Lorsque la meute est arrivée sur moi... Ouais, excusez-moi.
Voulez-vous que je vous mouche ? Allez-y, Frankie, c'est bon.
Merci.
Je vous en prie. C'est à ce moment-là que tout a basculé, Frankie.
Ouais, c'est ça. J'ai basculé en arrière. Et ils m'ont attaqué. Ils m'ont déchiqueté. C'est horrible.
C'est terrible. Vous avez évidemment porté plainte.
Mais j'étais dépouté. Car sans les juges, je suis responsable. Il est stipulé dans le contrat que lorsque on se trouve en présence de chiens, il suffit juste de se mettre comme ça. Excusez-moi, parfois je ressens encore mes membres.
Mais pourquoi n'avez-vous pas adopté la bonne position ? Mais
parce que je la connaissais pas. J'avais pas compris. Moi, je parle pas l'anglais, je savais pas. Et de toute façon, avec mon costume, j'aurais pas pu.
Aujourd'hui, comment envisagez-vous l'avenir, Franky ?
Sereinement. J'ai même un nouveau rôle à travailler. On m'a proposé d'incarner Jeff le Bulot dans la parade de Nemo 2.
Entre vous et moi, Franck, vous avez vraiment perdu tous vos membres.
Là, je dois vous laisser, là. J'ai mes soins.
Quel professionnalisme. Le travail vous a sauvé, en somme. Au revoir, Franky.
On peut voir dans le terrible destin de Franck l'incompétence de notre système d'éducation publique, coûteux et incapable d'enseigner une langue pourtant indispensable pour réussir dans le monde moderne.
Attention, vous m'attendez ?
Oui, Jean-Yves, je vous entends. Alors, vous êtes sur le point de terminer cette course ?
Oui, je suis à 5 mètres de l'arrivée. J'entends les chiens derrière moi !
Effectivement, nous vous voyons, et je vous rassure, vous avez suffisamment d'avance pour arriver au terme de votre course sans encombre.
Et voilà ! Oh putain, j'y suis ! À 10 mètres ! 5 mètres ! Allez, j'y arrivais !
Bravo Jean-Yves ! Bravo ! Vous pouvez être fier de vous ! Vous venez de remporter 10 000 livres et probablement le bonus temps en prime. Au nom de tous les francophones, je vous félicite. Au nom de tous les francophones et du Tabarnak Show.
Merci, Jean. J'ai mis combien de temps ?
Jean-Yves est l'exemple de la réussite de ces Français qui ont eu le courage de fuir une France étouffée par l'impôt et par des charges sociales trop lourdes. Un exemple d'adaptation à un monde globalisé où les fortunes sont accessibles si l'on veut bien s'en donner les moyens. L'envie de réussir peut nous pousser vers des efforts ultimes, généreusement récompensés et nets d'impôts. Jean-Yves, vous êtes un héros. Si le gouvernement tient ses promesses d'allègement fiscal, fiscale et de suppression de cette tradition archaïque qu'est le SMIC, alors peut-être Jean-Yves pourra-t-il bientôt exercer le métier d'homme taureau dans les corridas de Dax. C'était Natasha Dawson pour le Tabarnak Show.
Gros bisous, au mois prochain, portez-vous bien, ciao ciao. Wouh.